Alors, le thème du message, c'est le jeune homme riche. On va essayer de tirer deux, trois choses de ces textes que vous connaissez évidemment très, très bien. Et on trouve cette histoire-là dans Matthieu chapitre 19, les versets 16 à 30. On la trouve aussi relatée par Marc au chapitre 10, les versets 17 à 31. Et encore dans Luc au chapitre 18, les versets 18 à 30. Alors, moi, je vous propose d'ouvrir chez Marc, donc au chapitre 10, les versets 17 à 30. Marc 10, et on va lire du verset 17 à 31 même. Comme Jésus se mettait en chemin, un homme accourut, et se jetant à genoux devant lui, « Bon maître, lui demanda-t-il, que dois-je faire pour hériter la vie éternelle ?» Jésus lui dit, « Pourquoi m'appelles-tu bon ? Il n'y a de bon que Dieu seul. Tu connais les commandements. Tu ne commettras point d'adultère, tu ne tueras point, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu ne feras tort à personne, honore ton père et ta mère. » Il lui répondit, « Maître, j'ai observé toutes ces choses dès ma jeunesse. » Jésus, l'ayant regardé, l'aima. Il lui dit, « Il te manque une chose. Va, vends tout ce que tu as, donne-le aux pauvres et tu auras un trésor dans le ciel. Puis viens et suis-moi. » Mais affligé de cette parole, cet homme s'en alla tout triste, car il avait de grands biens. Jésus regarda autour de lui, dit à ses disciples, « Qu'il sera difficile à ceux qui ont des richesses d'entrer dans le royaume de Dieu ?» Les disciples furent étonnés de ce que Jésus parlait ainsi. Et reprenant, il leur dit, « Mes enfants, qu'il est difficile à ceux qui se confient dans les richesses d'entrer dans le royaume de Dieu. Il est plus facile à un chameau de passer par le trou d'une aiguille qu'à un riche d'entrer dans le royaume de Dieu. » Les disciples furent encore plus étonnés, et ils se dirent les uns aux autres, « Et qui peut être sauvé ?» Jésus les regarda et dit, « Cela est impossible aux hommes, mais non à Dieu, car tout est possible à Dieu. » Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui ayant quitté à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle sa maison ou ses frères ou ses sœurs ou sa mère ou son père ou ses enfants ou ses terres ne reçoivent au centuple présentement dans ce siècle-ci des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Plusieurs des premiers seront les derniers et plusieurs des derniers seront les premiers. » Alors, en introduction, j'aimerais dire que en la personne de Jésus, le royaume de Dieu est arrivé. Jésus a incarné le royaume de Dieu par les miracles qu'il a accomplis, par les signes, par les guérisons qui ont accompagné son ministère. Eh bien, toutes ces choses-là étaient des signes de ce nouveau royaume qui, au fond, transcendait avec le royaume déchu dans lequel le monde vit depuis la chute. Jésus agissait par des actes de puissance pour montrer que le royaume de Dieu était venu de façon concrète, comme une irruption dans ce monde. Les aveugles recouvrent la vue, les boiteux marchent, les sourds entendent, les pauvres reçoivent la bonne nouvelle, les démoniaques sont libérés des esprits mauvais. Et ça, c'est une bonne nouvelle. C'est juste extraordinaire. Jésus, en arrivant sur terre, inaugure ce royaume nouveau qui fait irruption dans ce royaume ancien, de Satan, on pourrait dire. C'est vrai qu'au départ, Dieu a laissé Satan s'approprier le monde et être le prince de ce monde, mais la Bible nous dit bien que c'est pour un temps seulement et que les jours de Satan en tant que prince de ce monde sont vraiment comptés. Le royaume est arrivé en la personne de Jésus, Mais à un moment donné, nous dit Jean dans l'Apocalypse, Satan sera lié pour l'éternité et jeté dans l'abîme. Et là, il n'aura plus aucune manière de sévir. Alors, évidemment, qu'est-ce qui nous prouve que ce royaume de Dieu est arrivé? Comment décrire ce royaume? Eh bien, comme je l'ai dit, les sourds entendent, les aveugles voient. Ce sont des signes du royaume qui arrive. C'est pas complètement le royaume. Si le royaume était complètement arrivé, il n'y aurait plus aucun sourd, plus aucun infirme, plus aucun démoniaque. Ce sont des signes pour nous dire qu'est-ce que c'est que ce royaume qui arrive en la personne de Jésus et qui transcende complètement avec le royaume de Satan. Où là, dans ce royaume de Satan, eh bien, il y a des démoniaques, il y a tout cela. Alors, les miracles que Jésus a opérés, mais peut-être particulièrement les exorcismes et les évangiles regorgent d'histoires où Jésus a chassé des démons, eh bien, évidemment que ce sont des signes prophétiques de la défaite complète de Satan. Face au royaume de Dieu qui arrive, eh bien, le royaume de Satan doit dégager, quoi. Alors, au fond, pourquoi est-ce que je commence à parler du royaume de Dieu? Eh bien, c'est simplement que Jésus a voulu rendre attentif ce jeune homme riche à ce royaume qui arrive en sa personne de Jésus. C'est comme si Jésus dit à ce jeune homme riche, tu es attaché à tes richesses, mais il y a quelque chose de beaucoup plus grand qui arrive. Regarde les miracles, regarde les guérisons, regarde les démoniaques qui sont libérés de leurs démons. Eh bien, moi, j'inaugure un royaume qui est nouveau. Et au fond, ce que Jésus veut faire avec ce jeune homme riche, c'est d'abord attirer son regard sur quelque chose de beaucoup plus grand. Maintenant, quelle est notre réaction face au royaume de Dieu qui est arrivé en la personne de Jésus-Christ, qui est présent parmi nous, mais évidemment qui va se révéler complètement quand Jésus-Christ reviendra chercher son Église. Ce que nous vivons du royaume de Dieu, ce sont uniquement les prémices. Mais qu'est-ce que nous dit la Bible par rapport au royaume de Dieu qui est là, pas complètement, mais dont on voit déjà des signes? La Bible nous dit par exemple en Matthieu chapitre 13, les versets 45 à 48, que celui qui comprend que le royaume est là, qu'est-ce qui fait cet homme-là? Il est semblable, ce royaume, à un trésor qui est caché dans les champs. Vous connaissez ce texte. L'homme qui sait que ce royaume est arrivé, l'homme qui a trouvé le royaume à quelque part, dans sa joie, il va vendre tout cela, il achète le champ. Où le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix, il est allé vendre tout ce qu'il avait, il a acheté. Le royaume des cieux est encore semblable à un filet jeté dans la mer et ramasse des poissons de toute espèce. Au fond, ce que ces textes veulent nous dire, c'est que celui qui a perçu la réalité du royaume parmi nous, eh bien, il va tout faire, il va miser, ça sera sa seule priorité de connaître ce royaume. Il est tellement extraordinaire. Et notre frère a commencé sa prière tout à l'heure, « Merci pour ta maison, merci pour cette relation que nous pouvons avoir avec toi, merci pour le fait que nous sommes chrétiens. » Ça, c'est le royaume. Celui qui a perçu le royaume fera tout, ça sera sa priorité. C'est tellement beau, c'est tellement magnifique, c'est tellement glorieux ce royaume. Alors, le royaume de Dieu est présent ici et maintenant, la personne de Jésus. Et comme je l'ai dit, c'est sur cette réalité-là que Jésus veut rendre ce jeune homme riche, attentif. Tu as des richesses, mais elles prennent trop de place. Et face à ce royaume qui est présent, ben, tes richesses, elles ne devraient pas pâlir. Ça devrait être plus si important que ça. Il y a quelque chose de tellement plus important qui est présent maintenant. Alors, maintenant, dans quelle catégorie faut-il placer les riches? Puisque
Si on va un peu plus loin dans le texte, ben, il est quand même question de richesse, et puis on est toujours un petit peu mal à l'aise avec ça. Le texte nous dit que là, ce jeune homme riche, Luc, nous avons lu la version de Marc, mais c'est bien de comparer un peu les évangiles, parce qu'on va trouver deux, trois petits détails. Mais Luc nous dit que c'est un notable, qu'il est très riche, et c'est Matthieu qui précise qu'il était jeune. Donc là, on a un notable, riche, très riche, et il est jeune. Quand on lit les trois textes, eh bien, il semble que évident que ce jeune homme est sincère. Il est animé par une aspiration profonde. Il aspire à la vie éternelle et il veut, à quelque part quand même, un peu connaître ce royaume dont il sent qu'il existe en la personne de Jésus. Et les textes nous disent, les trois, que ce jeune affirme avoir obéi fidèlement au commandement de la loi de Dieu. Et remarquez que Jésus ne met pas du tout en doute sa sincérité. En Marc, au chapitre 10, verset 21, nous avons lu ce verset « Jésus l'aima ». Et pourquoi est-ce que Jésus, à ce moment-là, aime ce jeune? Bien sûr, Jésus aime tout le monde. Mais on peut tout à fait penser que Jésus a aimé ce jeune parce qu'il accomplissait la loi de Dieu. Au fond, Jésus aime les prostituées, mais il aime aussi les gens qui accomplissent sa loi. Dieu aime sa loi, puisqu'il l'a lui-même donnée aux hommes. Et Jésus se réjouit d'avoir en face de lui quelqu'un qui aime la loi que son Père lui-même, Dieu, a dictée à un moment donné, la loi de Moïse. Les 10 commandements, voilà que ce jeune, il obéit à ça. Ben, c'est fantastique d'avoir un jeune comme ça en face de lui. Et Jésus l'a aimé. Jésus semble se réjouir d'avoir en face de lui un jeune qui aime sa loi. Mais cela est-il suffisant? Et c'est là un petit peu tout le drame. Parce que si ce jeune aime la loi de Dieu et qu'il l'accomplit, on pourrait quand même penser qu'il y a un commandement qu'il n'accomplit pas complètement. Tu aimeras ton Dieu comme toi-même et ton prochain. Et là quand même, tu aimeras ton Dieu, Dieu est au centre, ça doit être la première place. Mais quand même, ce premier commandement, est-ce qu'il l'accomplit complètement? Non, parce qu'il semble quand même que dans sa priorité première, c'est d'abord ses grandes richesses. Alors, est-ce que ce jeune a vraiment accompli ce commandement qu'on trouve dans Exode au chapitre 20, le verset 3, « Tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face ». Il accomplit tous les commandements, mais ce premier commandement, tu n'auras pas d'autre Dieu devant ma face. Ou tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme. Alors ça, non, il y a les richesses qui prennent la première place. Et Jésus va demander au fond, Jésus a vite discerné qu'est-ce qui était à la première place dans le cœur de ce jeune. Et Jésus va lui demander quelque chose de très difficile à accomplir. À ce jeune, vends tout ce que tu as et donne-le aux pauvres. Mais ce n'est pas la richesse en tant que telle qui est visée, puisque si vous lisez les chapitres plus loin, hein, si vous passez au chapitre après, vous avez l'histoire de Zachée. Zachée, cet homme plus ou moins malhonnête, collecteur d'impôts, qui prend des impôts, mais il en prenait souvent un peu plus. C'était assez courant à l'époque pour se mettre ça dans la poche. Et ce Zachée qui à un moment donné veut rencontrer Jésus, et puis vous connaissez l'histoire, il monte sur un arbre, il voit Jésus, il l'interpelle, Jésus va dans sa maison et Zachée est tout content, mais Jésus ne va pas demander à Zachée de vendre tout ce qu'il a pour le donner aux pauvres. Bon, Zachée le fera lui-même, hein. Il va liquider une partie de ses biens pour rembourser ce qu'il a volé. Mais il semblerait que Zaché est moins attaché à l'argent. Ça paraît bizarre que ce jeune homme riche. En tout cas, Jésus n'aborde pas cette question de la même manière. Jésus va demander au jeune homme riche, va, vends tout ce que tu as, mais il ne va pas demander la même chose à Zaché. Et c'est juste un chapitre plus loin. Alors, est-ce que c'est la richesse en tant que telle qui est visée par Jésus chez cet jeune homme riche? Ce qui est visé essentiellement, c'est qui est à la première place. Qui est à la première place dans sa vie? On va le voir tout à l'heure. Mais ce passage du jeune homme riche me fait vraiment penser à l'histoire d'Abraham et Isaac, en Genèse 22. Vous vous rendez compte, Abraham et Sarah, son épouse, ont beaucoup attendu ce fils de la promesse qui tardait, qui ne venait pas. Et lorsqu'il est enfin venu, eh bien voilà qu'à un moment donné, on ne sait pas exactement quel âge avait Isaac, quand Dieu a demandé à Abraham, « Sacrifie-moi ton fils, ton unique. » Est-ce que c'est quoi ça? Est-ce que Dieu teste, comme Jésus l'a fait avec le jeune homme riche, Dieu teste Abraham pour savoir qui est à la première place? Est-ce que c'est ce fils qui joue dans sa tente ou qui babille, enfin qui est par là? Apparemment c'est déjà un jeune homme puisqu'il pose des questions à son père. Il a quel âge? 15 ans, 13 ans, 12 ans, 17 ans, peut-être par là autour. Et quand Dieu demande à Abraham, sacrifie-moi ton fils, ton unique, ce n'est pas que Dieu se réjouirait de voir un jeune homme égorgé, sacrifié et puis trucidé avec un couteau. Dieu n'est pas sanguinaire. Ce que Dieu veut tester chez Abraham, c'est qui est au centre? Est-ce que c'est ce fils ou est-ce que c'est moi, Dieu? C'est le même principe que l'interpellation de Jésus avec ce jeune homme riche. Qui est au centre? Et chez Abraham, eh bien vous connaissez la suite. Abraham a obéi à Dieu. Il était prêt à sacrifier son fils pour prouver à Dieu que Dieu est vraiment au centre de sa vie et en priorité à la première place. Alors Abraham a préparé le sacrifice et au moment où il allait frapper, Dieu a dit « N'en fais rien, c'est bon, j'ai vu. J'ai vu que ton fils était en second, puisque tu es prêt à le sacrifier. J'ai vu, donc n'en fais rien. » Mais on peut tout à fait penser que la même chose serait arrivée chez ce jeune homme riche. Si ce jeune homme riche était parti de son entretien auprès de Jésus, en décidant de liquider sa richesse et de la donner aux pauvres, on peut tout à fait imaginer que Jésus serait revenu derrière en disant « Mais n'en fais rien, garde ta richesse. Mais j'ai vu que ta richesse est secondaire et qu'au fond, eh bien, c'est moi qui suis à la première place dans ta vie. » Vous savez, on vit des tests régulièrement dans nos vies où Dieu nous demande de déposer, de donner, de nous séparer de ce qui est le mieux dans nos vies. Moi, je l'ai vécu, je donne ce petit témoignage. J'avais 20 ans, j'avais acheté une guitare électrique, on faisait de la musique, et c'était les meilleures guitares avec un amplificateur. Et je vais faire court avec ce témoignage, j'avais 20 ans, j'avais acheté ça à 18 ans, j'avais mis toutes mes payes d'apprenti, j'avais mis 5000 francs pour acheter ce matériel. On avait un groupe de musique moderne chrétienne, on jouait partout, à Tramelan, à Lausanne, à Genève. C'était un peu nouveau qu'on avait la musique moderne dans l'église, alors on était invités assez, mais vraiment partout. Mais cette guitare et cet amplificateur représentaient pour moi tout. Enfin, pour moi, c'est difficile à comprendre, mais c'était Dieu à la première place, mais la guitare à côté, quoi. Enfin, puis peut-être presque un peu plus la guitare. Pourtant, je l'utilisais pour servir le Seigneur. Je suis parti au collège biblique. Et après 6 mois de collège, après une année de collège biblique, le Seigneur m'a demandé de me séparer de cette guitare. Parce que je sentais vraiment qu'elle prenait beaucoup trop de place dans ma vie. Mais j'avais aussi besoin de financer mon collège biblique. Alors bon, Voilà, c'était pas trop difficile non plus à s'en séparer. Alors je suis arrivé en Suisse, je faisais mon collège biblique au Danemark, mais j'avais cette conviction que je devais me séparer de ce matériel parce que ça prenait trop de place. Alors je suis allé dans un magasin de musique à Bienne, je lui ai donné ce matériel. Le responsable du magasin m'a dit, je vais vendre ce matériel, t'inquiète pas, ça va vite partir, c'est du très bon matériel. Je l'avais payé 5 000, mais je le vendais 3 500, donc celui qui l'achetait faisait une bonne affaire. Et je suis reparti au Danemark. Et à un moment donné, après 3 mois, j'appelle ce magasin de musique, je lui dis où en est mon matériel. Il me dit, tout est vendu, les 3 500 francs sont dans ma caisse, viens les chercher. Et je lui dis, écoute, je suis au Danemark, quand je termine mon semestre, c'est-à-dire dans 3 mois, je viens les chercher. Il m'a dit, pas de problème, ça reste au chaud. Dans 3 mois, quand tu reviens du Danemark, tu passes à mon magasin, je te versais 3 500 francs. Et voilà, tout était bien. J'ai obéi au Seigneur, je me suis dégagé de ce matériel, le Seigneur est à la première place, et j'ai 3 500 francs bien au chaud pour payer la suite de mon collège biblique. Fantastique. Et on se sent bien quand on a obéi. On a peut-être moins de matériel, mais on se sent bien. Après 3 mois, je rentre, je salue mes parents, je vais à Bienne, j'entre dans le magasin, il était là avec une mine. Et il n'y avait plus rien dans le magasin. 2-3 cordes de guitare, un petit micro. Et il me dit, Charles, choisis tout ce que tu veux ici et prends-le. J'ai dit, c'est gentil, mais j'aimerais mes 3 005. Il me dit, j'ai fait faillite. Les 3 005, je les ai perdus. J'ai pris un micro qui valait 50 francs. Puis voilà, je suis parti. Mais ça m'a paru tellement spécial d'obéir au Seigneur, mais après, finalement, quand même, de tout perdre. Et j'ai reçu ma facture de collège biblique, qui était de 3 400 francs, mais je les avais pas. Et j'ai posé cette question, « Seigneur, tu m'as demandé de me séparer de ce matériel, je l'ai fait, j'ai obéi, mais maintenant, j'ai plus rien. Enfin, qu'est-ce qui se passe ?» Et 6 mois après, je suis convoqué par le juge à Bienne. On était plusieurs, parce que plusieurs étaient lésés. Or, je me suis retrouvé au tribunal, mais dans le bon sens, je vous rassure. Et là, le juge a questionné tous ceux qui avaient perdu de l'argent. Et quand le juge est arrivé vers moi, je savais, j'avais été préparé par ça. Le juge m'a posé la question, Monsieur Burgunder, Monsieur Attel vous doit 3 500 francs. Donc vous maintenez ce qu'il vous doit. J'aurais pu dire, il me doit 3 000 et il devait payer jusqu'à la fin de sa vie. Mais la veille, quand j'étais en prière, le Seigneur m'a dit, quand le juge te dira combien ce monsieur vous doit, tu diras rien du tout. Je dis, mais Seigneur, ok, là tu m'en demandes un peu beaucoup, mais je vais obéir une fois de plus. Puis tant pis pour ça, j'ai tout perdu. Quand le juge est arrivé... chez moi, Monsieur Burgunder, Monsieur vous doit 3 500, vous retenez combien? J'ai dit, écoutez, Monsieur le juge, il ne doit plus rien du tout, je renonce. Après, il y a plein de termes un peu juridiques que j'ai complètement oubliés, mais enfin voilà, c'est pas ma tasse de thé. Et le juge m'a dit, mais franchement, vous renoncez à 3 500 francs? Il vous les doit, il vous les remboursera, 50 francs par mois, pendant 20 ans. J'ai dit, écoutez, non, monsieur le juge, il ne me doit plus rien du tout, je renonce. Alors, signez ici, c'est tout à votre honneur, c'est fantastique, vous serez un bon pasteur. Bon, j'ai signé, il ne doit rien. Je sors du tribunal, cet homme arrive vers moi, et puis il me dit, mais pourquoi vous avez renoncé à ces 3 005 devant le juge? Et je lui ai dit, écoutez, je suis chrétien, et le Seigneur m'a accordé une remise de dette qui était drôlement plus grande que celle que vous me deviez. Et là, il s'est mis en pleurs, il est tombé dans mes bras. Et il m'a dit, il y a 2 semaines, je me suis converti. Et je n'ai plus revu ce jeune. Mais voilà, pourquoi est-ce que le Seigneur nous demande des choses qui, au final, après, le résultat n'est pas tout à fait ce qu'on pensait. Je ne me suis jamais racheté de guitare électrique. mais le Seigneur a conduit mon chemin autrement. Mais des fois, c'est un petit peu étonnant les choses. Que serait-il arrivé si ce jeune homme avait obéi à Jésus, était parti pour remettre tous ses biens? Peut-être que Jésus l'aurait arrêté, comme il a arrêté Abraham. Peut-être que Jésus l'aurait dit, c'est bien, le test est passé, j'ai vu que tu es plus attaché à moi qu'à ton argent. Mais peut-être que ce jeune, finalement, il aurait tout perdu, il aurait rien eu au final. Toute sa fortune serait partie pour les nécessiteux. Ça, on ne le saura jamais. Mais une chose est sûre, c'est que ce jeune se serait senti mille fois mieux après coup, puisqu'il a dit que ce jeune homme est parti triste quand même, quoi. Mais j'aimerais quand même revenir au texte, puisqu'il est question, après, quand Pierre pose la question, mais... c'est Jésus qui répond, mais eh bien, ceux qui quittent maison, fortune, pour me servir, ils hériteront 100 fois plus. Mais le texte nous dit quand même des maisons, des terres, des choses comme ça, quoi. Alors, est-ce qu'il faut donner pour recevoir plus, après, par derrière? Ça paraît quand même un peu bizarre. Mais combien de serviteurs de Dieu, finalement, ont quitté leur famille pour aller suivre le Seigneur dans d'autres pays et ont trouvé là-bas d'autres familles? Combien finalement ont quitté leur maison, leur bien-être, et ont retrouvé d'autres maisons? Et si je reprends l'exemple d'Abraham, Abraham était prêt à sacrifier son fils, Dieu lui a dit non, mais Abraham a trouvé une autre famille en la personne d'Isaac, qui effectivement, par Isaac, toutes les nations de la terre se sont multipliées. Et Dieu avait fait cette promesse à Isaac que ta descendance serait comme les grains de sable. Elle l'a été au travers d'Isaac. Alors, Dieu restitue, hein, quelquefois. Dieu restitue ce qu'on lui a donné, ce qui était trop central dans nos vies, ce qui prenait toute la place. Dieu, si on le lui donne, si on y renonce, à un moment donné, Dieu peut nous le restituer complètement. Bon, moi, j'ai pas reçu de nouvelle guitare, hein. Et j'ai une question là-dessus. Est-ce que j'en rachète une? J'aimerais bien, mais quand vous avez les enfants aux études, il y a d'autres priorités. Quand il y a ceci, cela, ça devient luxe dont on se dit, on n'a pas les moyens. Mais c'est pas grave. J'ai racheté une guitare sèche, on a pu faire beaucoup de musique, on a pu enregistrer des choses pour TVP à l'époque. Mais Dieu m'a pas redonné de guitare. Puis Dieu m'a pas confié un ministère, je dirais, de la musique. Un peu le chant, oui. Il m'a confié un ministère pastoral qui m'a beaucoup plu. Ça fait 30 ans que je suis pasteur. Qu'est-ce que Dieu peut nous confier en retour quand nous lui laissons ce qui est à la place centrale dans nos vies? Puisqu'il est question chez Abraham d'une restitution. Eh bien ça, on ne le sait pas, mais Dieu est bon. Dieu est bon et il se réjouit quand nous lui donnons ce qui a la première place dans nos vies pour que lui puisse l'avoir, cette première place. Dieu se réjouit de nous redonner des choses, mais des choses meilleures. Et ces choses peuvent être matérielles. Aussi, mais elles sont sanctifiées. Elles prennent plus toute la place. Il y a toujours Dieu qui est au centre. Vous savez, Dieu est un Dieu jaloux qui souhaite uniquement avoir la première place dans nos vies. Mais Dieu est aussi un Dieu bon, qui peut nous donner tellement, tellement, tellement de choses par la suite. Quand on est pasteur, on renonce à beaucoup de choses. J'avais dit à ma femme, tu sais, on va suivre le Seigneur. Heureusement que c'est une Sicilienne travailleuse, et puis modeste, et puis qui ne regarde pas au matériel. Mais je lui avais dit, sache que dans notre vie, on n'aura jamais de maison. On ne pourra jamais se payer ça. Et quand on était pasteur à Aigle, et Aigle en plus c'était assez cher, voilà qu'une maison est partie en faillite, elle avait que 2 ans, mais le promoteur a fait faillite, bon, moi j'y peux rien, et qu'elle a été reprise par une banque qui elle-même a fait faillite, c'est passé à une autre banque, et c'était une maison jumelle, et le voisin qui occupait une de ces deux jumelles était un ancien dans l'église à Aigle, et il m'a dit « Charles, j'ai payé ma maison tant, mais la maison à côté a fait 2 faillites, une le promoteur, l'autre la banque qui l'a reprise, elle va partir pour rien, fais une offre. » J'ai fait une offre en fonction de ce que mes parents nous prêtaient un tout petit peu, mais on n'y contenta pas. Et j'avais en mémoire ce que j'avais dit à ma femme, « Tu sais, on n'aura jamais de maison. » Et voilà que la banque a accepté mon offre et qu'on s'est retrouvé finalement dans une maison. Et pour moi, c'était complètement inespéré, mais c'est même pas ce que je recherchais. J'étais très content dans un appartement en tant que locataire. Mais on s'est retrouvé dans une petite maison avec un jardin où on a pu élever nos enfants. Et avec au final une location qui nous coûtait moins cher. Location, on était propriétaire. Mais Dieu est bon. Mais cette maison n'a jamais constitué comme ma guitare le point central dans ma vie. Dieu peut redonner de tellement belles choses, mais ce qui compte, c'est qu'il soit complètement au centre dans nos vies. Que le Seigneur vous bénisse. J'aurai encore beaucoup de témoignages. Mais je m'arrête ici. Si vous voulez, je peux vous en donner un encore quand j'étais gamin, mais autour de l'apéro. Amen.